Bonjour. Alors, je me présente, je suis Patrice Gourdet et je vais intervenir avec deux collègues, Elsa Odorico et Cassandre Dufay. Elles se présenteront aussi. Moi, je suis enseignant-chercheur au laboratoire EMA, que vous voyez là. C'est un laboratoire qui appartient à l'université de Cergy-Pontoise. Donc, vous avez une présentation ce matin sur l'étude de la langue au CP à plusieurs voix, avec un enseignant-chercheur et deux collègues qui sont conseillers pédagogiques sur l'Académie de Versailles dans le département du 91. L'année dernière, nous n'étions pas encore prêts à intervenir. Cette année, on est un peu plus prêts à intervenir. Et notre intervention, elle va se faire en deux parties. Une partie où je vais essayer de faire une synthèse de ce qu'a apporté la recherche lire-écrire sur cette question qui, au départ, n'était pas la question prioritaire quand on s'est lancé dans cette recherche, qui est la question de l'étude de la langue au CP. Donc, je vais essayer de vous expliquer, de vous donner quelques éléments qui nous ont amenés à des conclusions. Et ces conclusions, bien sûr, nous ont amenés ensuite à travailler, à réfléchir et à avancer. Mais vous allez voir, on est là à une étape et on va, demain, sur les ateliers qui seront avec nous, on vous proposera notre étape. On n'en est pas encore à vous proposer un scénario clé en main. Et ces deux jours vont nous permettre de continuer à échanger justement avec vous. C'est pour nous très important. Voilà. Alors, juste un petit point quand même sur cette étude. Je rappelle le cadre, vous le connaissez, mais j'aime bien à chaque fois le remettre parce que la démarche de cette recherche, elle est fondamentale puisqu'elle est dans un va-et-vient permanent entre ce qui se passe réellement dans les classes. J'ai bien dit ce qui se passe réellement dans les classes. La recherche qu'on peut en faire sur le plan didactique, j'ai bien dit didactique, puis après, comment on peut essayer d'en faire un objet de formation. Donc c'est cet aller-retour qui est vraiment une richesse extraordinaire. Donc je vous remets, mais vous le savez, c'est une étude quantitative, on a 131 classes, 2507 élèves, on a étudié évidemment les liens entre les performances initiales et finales, parce qu'aucune recherche ne peut se concevoir sans essayer de voir non pas un résultat à la fin de quelque chose, mais bien un progrès. C'est ça qui nous intéresse, c'est bien le progrès des élèves. On a étudié différents liens, tout ça, vous le savez. Là où je voudrais insister, c'est sur notre échéancier. Voilà, en 2013-2014, nous étions en observation. En juin 2015, on a même fait un suivi d'une cohorte d'élèves de CE1. On a quand même récupéré 82% des 2507 élèves. Alors évidemment, ce n'est pas un suivi de cohorte, on n'a pas observé les classes de CE1, on a juste observer, évaluer des élèves. Donc il y a plein d'effets qu'on ne contrôle pas, mais ça permet, et vous allez le voir, en étude de la langue, on a regardé ça, ça permet d'avoir un regard sur 2 ans d'une cohorte d'élèves. Évidemment, en 2016, on n'oublie pas, il est toujours en ligne, il faut continuer à aller le regarder régulièrement. C'est la publication du rapport de recherche qui fait beaucoup de pages à première vue, mais qui a un sommaire actif. Je dis tout le temps ça aux enseignants. S'il y a un seul point qui vous intéresse, vous n'avez qu'à cliquer et vous retrouvez avec 2 pages à lire. Ça fait un peu peur, un rapport de 450 pages. Mais en même temps, c'est important qu'on l'ait, c'est important de le lire. Alors, en 2017-2018, c'est-à-dire l'année dernière, on a commencé à travailler sur l'élaboration d'un scénario de formation. Donc, il y a 3 groupes. Nous, on est les un peu en retard. On est toujours en retard, nous. On est les lapins d'Alice. Mais en même temps, c'est intéressant d'être en retard parce qu'à chaque fois qu'on se réunissait avec nos collègues du groupe écriture et du groupe compréhension, on s'alimentait en fait de leurs réflexions. Donc, en fait, le fait des fois d'être en retard permet d'écouter les choses et ça nous a fait bien avancer, en fait. Mais on est toujours un peu en retard. Alors, rapidement, c'est quoi les apports et les appuis de cette recherche? Donc, en fait, quand la recherche est mise en place, un petit groupe s'est formé autour de l'étude de la langue au CP. Un petit groupe qui avait comme idée, écoutez bien un peu, on était sur une double détente. C'est-à-dire que nous, on voulait travailler sur le CP, mais ce groupe, je vous donnerai leur nom tout à l'heure de chercheurs, c'était plutôt l'intérêt du CE1. C'est-à-dire qu'au départ, une des idées du projet, c'était quand même de poursuivre en CE1 aussi. Et nous, c'était l'étude de la langue CE1 qui nous intéressait. Mais on s'est dit, il faut quand même qu'on commence à regarder en CP. Donc, on s'est posé des questions qui sont d'une banalité affligeante. Enseigne-t-on la grammaire au CP? À l'époque, avec les programmes de 2008, oui, il fallait enseigner la grammaire au CP. Donc, on a dit, est-ce qu'on enseigne la grammaire? Et si oui, comment? Bon, c'est une question très générale. Une deuxième question, c'était une question sur les liens entre l'étude de la langue et l'enseignement du lire-écrire. dans les pratiques observées. Et enfin, la troisième question qu'on s'est posée, c'est quoi les notions qui étaient introduites en CP, comment elles étaient introduites et sous quelle forme, la terminologie. Il y avait plein d'éléments qui nous intéressaient. Donc ça, c'était nos trois grandes questions. Et pour ne pas trop gêner, parce qu'on sent bien que quand on fait une étude sur le CP, les gens qui sont responsables de la compréhension du code ou de l'écriture, ils ont besoin de recueillir beaucoup d'informations. Donc nous, on ne voulait pas trop ennuyer, mais ça a été une erreur, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en en fait, on a donné des tâches, vous savez, aux observateurs. Il fallait qu'ils codent un rapport entre des tâches et du temps. Et nous, on a défini que trois tâches. Trois tâches qui sont simples, hein, c'est-à-dire que des tâches qui renvoyaient au lexique, mais au lexique complètement décroché. Après, c'était difficile, parce que des fois, le lexique, ça rentre presque dans les tâches de compréhension. Donc voilà, c'était des tâches qu'on appelait EL1, des tâches... Alors les tâches de lexique, c'est ça, hein, c'était dès que les enseignants travaillaient sur la construction des mots, un peu décontextualiser, expliquer le sens d'un mot de manière un peu grammaticale, avec une entrée où on fait des liens entre des familles de mots. Bon, associer des mots à son contraire, voilà. Toutes ces petites choses-là, on appelle ça EL1. Au niveau de la syntaxe, c'était vraiment tout ce qui pouvait être observé en termes de réflexion autour de la phrase, d'organisation de la phrase. Attention, c'est des petites tâches fractionnées. Hein, si vous avez suivi un peu cette recherche, c'est pas, les tâches ne sont pas des séances. Hein. Et enfin, bien sûr, des tâches de morphologie qui, là, sont plus classiques. C'était sur l'orthographe des mots, l'orthographe lexicale et l'orthographe grammaticale. Pourquoi je dis on n'avait mis que trois tâches et après, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on rentre de manière un peu plus fine dans ces trois tâches. Mais notre première, idée au départ, c'était de ne pas non plus surcharger, parce que si vous connaissez le tableau des tâches, il y en a quand même un certain nombre. Donc, voilà sur quoi on est parti. Je vous remets le petit schéma en haut à droite qui est assez connu, qui est que nous, on a observé les tâches et la durée de ces tâches. Hein, attention, le grain de cette étude, il s'arrête là. Hein. Après, s'occuper de l'apprentissage de chaque élève, ça aurait été un autre grain plus fin. Alors les résultats, vous les connaissez aussi sûrement, mais là je vous montre les résultats en étude de la langue. Donc vous avez les trois semaines d'observation, parce que tout notre travail est basé sur trois semaines d'observation. Vous savez qu'à peu près en moyenne sur ces trois semaines, en tout cas je vous le redonne, c'est 7h22 de français sans temps mort, ce qui semble pas beaucoup, parce que les programmes, si on enlève les récréations, ça fait 9h10 à peu près. Mais l'air de rien, 7h22 sans temps mort, c'est vite 9h10 et les temps morts, c'est pas quelque chose, c'est pas anormal. Quoi. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, on distribue des feuilles, à un moment ou à un autre, on a des fins de séance un peu plus floues, etc. Bon. Et ce qu'on a regardé, c'est l'évolution de nos trois tâches. Donc à droite, vous avez, alors sur le schéma, vous avez le temps. Et ce sont des moyennes, bien sûr, sur 131 classes. Après, on rentrera un tout petit peu dans les classes. Ce sont des moyennes sur 131 classes. On voit que le temps cumulé à faire de l'étude de la langue, ben, il augmente un petit peu, hein, entre le mois de novembre et le mois de février, de mars et de mai. Donc ça, c'est la partie droite de mon schéma. Et on voit que le lexique augmente aussi, le temps en tout cas, de tâches de lexique augmente, la syntaxe, légère diminution, mais ça se stabilise. Et la morphologie, quelque chose d'assez classique. C'est à première vue, on n'en fait pas beaucoup au mois de novembre, mais pas beaucoup. Regardez les temps, hein, c'est de la moyenne par semaine. Hein. C'est-à-dire qu'en morphologie, on est autour de 10-15 minutes de tâches identifiées de morphologie. Mais il y a une augmentation. Donc on a une augmentation constante du temps consacré au lexique, une légère diminution du temps consacré à la syntaxe et une augmentation des tâches dévolues à la morphologie. Attention, si on prend l'ensemble de l'étude de la langue et l'ensemble de nos trois tâches, sur 7h22 en moyenne par classe, la moyenne de l'étude de la langue est de 40 minutes. Donc, tout ça semble, en tout cas c'est de l'observer, ça semble normal, il y a 40 minutes de temps consacré par semaine, mais là je viens d'écraser 3 semaines et d'écraser 131, d'écraser en termes statistiques 131 élèves, 131 classes et 3 semaines. Ok, alors, quand on regarde plus finement, on regroupe les classes par déciles, ça veut dire qu'on met on fait des groupes de 13 classes, ça fait donc 10 déciles, 131 classes, ça fait donc 10 déciles. Et là, ce qu'on va commencer à voir apparaître, c'est quelque chose de très important dans notre réflexion, c'est la très grande hétérogénéité des pratiques par rapport à l'étude de la langue dans les 131 classes de notre corpus. On voit que si on globalise les trois tâches, s'il y a la moindre question, n'hésitez pas à me la poser, hein, Si on globalise les trois tâches, on a 7 minutes de moyenne d'étude de la langue pour celles qui en font le moins et jusqu'à 1h20 pour celles qui en font le plus. Donc quand même une grande hétérogénéité. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que si on isole tâche par tâche, on en a que 3, on trouve la même chose. Attention, là, l'air de rien, on écrase quand même les classes. Ce n'est pas sûr que ce soit les mêmes classes qui font très peu de lexique et les mêmes classes, d'accord. On a des classes qui font très peu d'études de la langue. C'est sûr que si je regarde ici mes 13 classes qui font 7 minutes, elles ne vont pas se retrouver à 45 minutes dans la décomposition des trois tâches. Par contre, les classes qui en font beaucoup, il y a des distributions différentes. Durée faible et hétérogénéité forte sur les pratiques. Pour l'instant, nous, on ne faisait que observer des données. Mais derrière ces données est arrivé des conclusions. La première chose qu'on a faite, et je vous montre que ça, parce que tout le travail que présenteront Elsa et Cassandre derrière, après moi, c'est la morphologie. En fait, à un moment ou à l'autre, on a dû faire un choix. Donc, comme on a fait un choix dans le groupe de travail sur les scénarios autour de la morphologie, je ne vais vous parler en termes d'apport que de la morphologie, qui c'est donc pour nous le L3. Donc, je reprends, vous allez voir la même chose que tout à l'heure, sauf que là, chaque bâton, c'est une classe. Donc, comprenez bien que 60% des classes consacrent moins de 10 minutes par semaine à la morphologie, qui est de l'orthographe, si je vais très très vite dans mes propos. Et on a donc voilà, 79 classes font moins de 10 minutes. Vous voyez, j'ai fait ma barre. Chaque trait, c'est une classe. Et on a 5% des classes qui consacrent, c'est-à-dire 7, plus de 30 minutes par semaine. C'est la même chose que la diapo d'avant, c'est pour vous faire exploser devant vos yeux ce qui fait la réalité de ce métier, qui est que chaque classe, quoi qu'on en pense, même si on donne des ordres très forts, il y a des hétérogénéités de pratiques très fortes. Ça ne veut pas dire qu'il y a un modèle type, mais on va avoir quand même quelques éléments. Alors, on va rentrer, on va regarder... très grande majorité des classes, quand même, ne font pas de morphologie ou en font très peu. Moyenne des 3 semaines observées. Alors, je vais vous montrer l'évaluation de fin de CP. Donc, nous, en morphologie, on n'a pas d'évaluation de début de CP, parce qu'en début de CP, on a essayé de les faire écrire, mais on n'en est pas encore dans le rapport orthographique des mots qu'ils écrivent. Donc, on a là, par contre, que des résultats de fin. Mais ça nous donne quand même une vision des compétences des élèves, puis après, on l'aura en fin de CE1. Voilà la phrase dans laquelle je vais poser un peu de réflexion. C'est « Les lapins courent vite ». C'était une petite dictée qu'ils avaient en fin de CP, au mois de juin. Donc vous voyez très bien l'affaire. On est sur un groupe nominal assez simple. Il faut mettre un pluriel à « s » et le pluriel au verbe et éviter de mettre un pluriel à « vite ». Voilà, donc je vous montre des réponses d'élèves. Donc voilà la réponse attendue. Donc des élèves en CP sur nos 131 classes, sur 2507 élèves, ont répondu bien sûr comme on attendait. D'autres ont fait ça. C'est-à-dire que d'autres ont essayé d'écrire déjà les sons qu'ils entendaient, voire même en oubliant presque les mots. Donc là, il y a écrit « les lapins courent vite ». Je ne sais pas s'il y a un « t », je ne crois pas. Oh là, il y a un petit « t ». Donc, « les lapins courent vite ». Puis après, on peut avoir ça, « les lapins courent vite », où on a une gestion lexicale, mais pas encore de gestion grammaticale. Attention, là, il n'y a pas de gestion grammaticale. C'est une instance directe, c'est une mémoire orthographique directe. Voilà, on peut avoir ça, où la différence avec la diapo d'avant, c'est que l'élève sait qu'il y a autre chose à gérer que simplement des graphèmes surpuissants, COUR, il sent bien que ça ne suffit pas, et VIT, parce que les lapins courent vite, VIT, pour cet élève-là, bien sûr, il y a vite, mais on est dans un autre niveau, voilà. C'est un panel, donc les lapins courent vite, une tentative de marque grammaticale sur court, et les lapins courent vite, un petit S à vite, etc. Les lapins courent vite, où là, c'est intéressant, parce qu'on voit que c'est enclenché chez cet élève-là, quand même, un rapport grammatical, mais il est tombé dans la redondance des marques, c'est un des problèmes du français, donc il a mis des S partout. Alors, c'est quoi en termes de résultats? Voilà comment on a codé, c'est-à-dire qu'on a regardé, soit il n'y avait aucune marque du pluriel, vous en avez vu dans les diapos que je viens de vous montrer, soit il y avait une ou plusieurs marques, mais rien à voir avec le pluriel, le fameux T derrière le cours. Donc ça, c'est 0,1. Puis après, 2, 3, 4, il se passe quelque chose du côté des marques grammaticales que l'on attend, c'est-à-dire une seule marque correcte ou 2 ou 3 marques du pluriel avec une seule correcte. Et enfin, le code 4, qui est le code attendu, les 2 marques correctes. Sur lapin et cours. Voilà les résultats. Donc les résultats, ils disent une chose sur le plan morphologique, en fin de CP, même ceux qui ont fait 80% de morphologie, Bon, ben voilà, si vous rajoutez 75% aux quelques pourcents qu'il y a en bas, on se retrouve avec en gros 80% des élèves pour l'instant ne gèrent absolument pas la question des accords du pluriel, que ce soit les accords au niveau du nom ou au niveau du verbe. Voilà. Donc on a envie de dire, mais à quoi ça sert d'avoir passé 1h20 par semaine à faire ça ? Mais vous allez voir qu'il y a d'autres effets qui nous intéressent. Donc sur le plan morphologique, il faut faire attention, c'est-à-dire que si d'un seul coup le prescrit voudrait dire... Alors, bien sûr, le prescrit est très bien fait, parce que c'est un prescrit de fin de cycle 2. Et tant mieux ! Mais on ne sait jamais si l'idée venait de faire un prescrit de fin de CP, je ne sais pas, hein, et qu'on nous mette une pression énorme en disant qu'il faut absolument qu'ils mettent le S sur le lapin, ça va être compliqué, parce que le tableau de bord de l'enseignant va faire qu'il va se dire « Oula, il faut qu'ils mettent le S de lapin ». Pour l'instant, ils ne le mettent pas. Hein. Donc il va falloir pas faire 1h20, il va falloir faire 3h ou 4h et envoyer du sort. Mais sauf quand on fait 4h de morphologie, on ne fait pas autre chose, c'est-à-dire votre temps. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, je vous montre de la normalité, j'ai envie de dire, 131 classes tout à fait classique. Donc on ne peut pas attendre de l'étude de la langue, à première vue, un rendement morphologique à court terme. OK. En fin de CE1, on avait quelque chose d'un peu plus difficile. Deux petites phrases là, avec que des marques du pluriel qui ne s'entendent pas. Les salades vertes poussent dans les jardins, jeune caneton picore le blé avec la poule noire. Des marques du pluriel. Alors, le problème, c'est après coup. C'est-à-dire que la codification que je vais vous montrer aujourd'hui, elle m'empêche d'aller loin dans ma réflexion. Elle nous empêche, parce qu'il faut que je dise du nous dans le groupe de chercheurs. En fait, c'est après coup, on s'est dit, cette codification, elle a un petit peu raté, parce qu'on va voir des choses et on va en rater. C'est aussi le problème. Donc, je vous montre deux réponses. Hein. Cette petite fille ou ce petit garçon qui ne gère absolument pas les marques grammaticales, mais qui gère extrêmement bien les marques lexicales, en fin de CE1. Alors, ça pourrait commencer à être inquiétant. C'est assez amusant. J'ai pris cette réponse-là parce que elle l'interroge quand même. C'est-à-dire qu'il y a une très, très bonne gestion de l'orthographe lexicale, mais vous voyez, il n'y a absolument pas, pour l'instant. Alors, en fin de CE1, c'est dommage. Et là, un élève qui gère très très bien les marques grammaticales du nom et de l'adjectif, mais pas le verbe pour l'instant. Voilà. Et comme ça, je pourrais vous illustrer les choses encore plus, mais j'arrête là mon illustration. Alors, on se retrouve donc avec des résultats qui ont globalisé. C'est peut-être ça notre erreur. Parce qu'on avait réfléchi sur le protocole. Et le protocole fait qu'on a regroupé les noms, regroupé les adjectifs, regroupé les verbes. Regrouper les verbes, ça va, c'est une bonne idée. Regrouper les noms et les adjectifs, c'est une erreur, mais c'est une erreur qui, 2 ans plus tard, maintenant que je continue à travailler sur ces données-là, je me dis que c'est une erreur. Parce qu'en fait, dans les salades vertes, que ce soit le nom ou l'adjectif, on sait très bien que salade va être mieux gérée que verte. Et dans les jeunes canetons, que ce soit un nom ou adjectif, ça n'a pas beaucoup d'importance, jeune va être mieux géré que caneton. Mais si je regarde, comprenez-moi bien le protocole, si je ne regarde pas les adjectifs, je ne vois pas, en fait, la gestion des marques au fur et à mesure de l'éloignement de l'avertisseur. Vous me suivez ? Bon, mais on a quand même des informations. On a toujours des informations, d'abord. 3 sur 3, 21% pour les noms, 8% pour les adjectifs, 6% pour les verbes. C'est clair qu'en fin de CE1, alors évidemment, on ne connaît pas les anciens de CE1, mais on peut considérer que notre corpus correspond à une progression normale. C'est-à-dire que nos collègues de CP qui ont participé à l'étude ont montré leurs compétences professionnelles. Je pense que les collègues de CE1 sont aussi compétents. Et la seule chose qu'il faut entendre, moi, c'est comme ça que je me positionne, c'est qu'il faut du temps pour gérer le pluriel des noms. Là, le pluriel des noms, c'est 6% qu'on met NT. Hein. On ne compte pas les S. Ça manque aussi. Ça aurait été intéressant de savoir les S. Donc, c'est un chiffre normal. C'est pour ça qu'il faut absolument viser 100% de réussite en fin de cycle 2. Je continue. Pour les adjectifs, bon, c'est un peu compliqué. On a sur les noms 2 sur 3, 21%, 2 sur 3, 21%, et enfin 1 sur 3, 21%, 1 sur 3, 32%. Si vous cumulez tous ces chiffres, on va vite trouver un tiers d'élèves qui, pour l'instant, alors on a sur 94% d'élèves qui ne gèrent pas la marque du pluriel verbal, et on a un tiers d'élèves qui ne gèrent pas de marque, quoi, de pluriel, ni du nom, ni de l'adjectif. Voilà ce que nous donne cette recherche. J'ai presque fini. Oui, ça c'était les compléments. 37% aucun accord du pluriel des noms et 59% aucun accord du pluriel des adjectifs. Sauf que ces deux chiffres-là sont à prendre avec un tout petit peu de recul, puisque jeune ne va pas être géré de la même manière que salade. Non, que caneton ne va pas être géré de la même manière que verte. Les élèves ne font pas obligatoirement la différence entre nom et adjectif. Ils gèrent le groupe nominal comme une entité. Tout est au pluriel ou pas tout. Maintenant, ce que la recherche nous a dit. Donc, à première vue, si je m'arrête là, ma conclusion, ça va être faire, puisque je suis parti sur la morphologie, faire de la morphologie en CP, ça ne servirait pas à grand-chose. Sauf que, voilà une information qui nous est tombée dessus. En fait, elle nous est tombée dessus parce que ce petit groupe qui travaillait sur l'étude de la langue, on pensait être tranquille, pas ennuyé, on faisait nos trucs dans nos coins. Nous, on n'avait pas de pression, parce qu'en CP, la pression, elle est sur le code, la compréhension de l'écriture. Nous, on pensait, ce petit groupe-là, se dire on travaille tranquille. Et en fait, d'un seul coup, la pression est arrivée, parce que les statisticiens nous ont dit la chose suivante. C'est-à-dire que le temps consacré à faire de l'étude de la langue a un impact positif sur le lire-écrire. Alors ça, on s'est dit, il faut vite qu'on s'en occupe. Il faut qu'on comprenne ce qu'il y a derrière. Parce que vous imaginez bien ce qui peut se passer dans un prescrit qui ne réfléchit pas. C'est de dire, faites de la grammaire au CP. Alors déjà, qu'ils doivent faire beaucoup de codes, si en plus ils doivent faire beaucoup de grammaire, j'ai peur pour mes collègues de compréhension et d'écriture. Donc attention. Donc nous, le groupe s'est dit, maintenant, on se remet au boulot, en fait. Il faut qu'on aille chercher exactement, qu'on comprenne, en fait. Parce qu'on est en train de dire que faire beaucoup d'études de la langue, vous voyez, effet positif, faire de l'étude de la langue, le temps consacré à l'étude de la langue, positif partout. Le temps consacré à faire du lexique un peu décontextualisé, positif partout. Le temps à faire... Alors la syntaxe, c'est juste positif en écriture. On voit bien le lien, quand même. La morphologie, c'est surtout positif en compréhension en écriture. Et après, on s'est amusé à additionner des choses. On a vu, je ne rentre pas dans les détails, mais dans tous les cas, il y a un effet temps entre étude de la langue et mieux lire, mieux écrire. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Un effet temps. OK. Alors, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, en fait, qu'est-ce qui fait que faire de l'étude de la langue au CP n'a pas d'impact sur leurs compétences orthographiques et a un impact sur le lire et écrire. C'est quoi le moteur? Il est où? Et bien là, on a pris les 33 classes qui montraient le plus d'efficacité et les 33 classes qui montraient de l'efficacité aussi, mais le moins par rapport à ce qui était attendu. Attention, quand on dit efficacité, ce n'est pas 33 classes qui faisaient désapprendre leurs élèves, les 33 moins. C'est 33 classes qui montraient une efficacité, mais un petit peu en dessous de ce qu'on aurait pu attendre par rapport au milieu, par rapport aux élèves, par rapport à plein d'autres choses. Et on a re-regardé sur ces 66 classes, à la vidéo, toutes les tâches d'étude de la langue sur les 3 semaines. Et on a essayé de comprendre ce qui se passait. On a essayé de catégoriser les tâches d'étude de la langue. Donc, on s'est réparti le travail. Et donc, on a essayé derrière de catégoriser ça de la manière suivante. On a regardé, parce que souvent, ces tâches d'étude de la langue, c'est du collectif. C'est des moments d'échange collectif. Donc, on a regardé deux choses. On a regardé le savoir sur la langue. On a essayé de voir si l'enseignant ou l'enseignante était dans une transmission qu'on appelle réflexive, une genre de vigilance. Tu dis, il y a un S pour quoi ? Tu dis que c'est du pluriel, d'accord, ok. Parce que je ne valide pas, mais comment tu sais que c'est du pluriel ? Voilà, cette transmission un petit peu réflexive face à une transmission non réflexive. Pourquoi il y a un S, c'est du pluriel ? Oui, merci, on passe à autre chose. Vous voyez la différence ? Alors, pourquoi il y a un S ? Parce que c'est du pluriel, mais comment tu le sais, etc. Et dans l'autre, c'est on valide ou on invalide. Je vais très vite, mais c'est un peu ça notre filtre de lecture du tableau. Dans l'autre sens, on a regardé si l'enseignant faisait ce qu'on appelle une transmission transitive. Donc, Pierre, il dit qu'il y a un S au pluriel. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Et dernière chose, une transmission intransitive. Pierre me dit que c'est du pluriel. Je dis oui à Pierre. Ça va ? Et on a croisé ces deux données. Alors, il y a des choses qui ne sont pas trop parlantes. C'est-à-dire qu'en gros, avoir une transmission où je fais échanger les élèves et en même temps je valide, en fait, on n'en trouve pas beaucoup. On en trouve quand même, mais on n'en trouve pas beaucoup. Avoir une transmission où on fait réfléchir les élèves et on les met en relation, oui, il y en a. Et regardez bien ce qui se passe, c'est qu'on trouve quand même une différence. Il y a plus de classes qui font de la transmission où on fait réfléchir sur la langue, métalinguistique, mais en même temps, on fait échanger les élèves entre eux. Il y en a plus dans les classes plus performantes que dans les classes moins performantes. Premier indice. Là, on n'a pas assez de différence. Par contre, là, on a beaucoup de différences. En fait, ce que je vous demande de regarder, c'est les diagonales. En gros, si j'avais à faire une typologie, dans une classe où on ne cherche pas à faire réfléchir sur la langue et surtout on ne cherche pas à faire échanger les élèves, on trouve plutôt les classes moins performantes. Attention, c'est faible, on est sur des chiffres, mais ça nous donne des tendances. Et dans une classe où, à première vue, on fait échanger les élèves entre eux et on fait réfléchir sur la langue, on trouve plutôt les classes efficaces. C'est sûrement là la clé. Donc la clé... Ça va être ma conclusion. Alors, on a deux articles hein, pour finaliser ça. C'est-à-dire que là, vous retrouvez les collègues, donc Patrice Gourdet, moi-même, Corinne Gomila, Véronique Bourry, Marie-Laure Lalouf, Claudie Perret et Cécile Avézard-Roger. Ce sont eux l'équipe de recherche. Et on a donc deux articles dans le repère. Si vous voulez refaire le point de tout ce que je viens de raconter, les deux articles sont on les a mis complémentaires. Il y en a un qui annonce un petit peu ce qu'on a fait, l'autre qui donne les conclusions. Et on est même allé jusqu'au lexique dans le deuxième article. Maintenant, je termine avec les apports. Un, consacrer du temps à l'étude de la langue, c'est un effet significatif. D'accord. Mais en formation, on ne peut pas s'arrêter à ça. Il faut faire réfléchir les enseignants sur qu'est-ce que c'est que faire de l'étude de la langue au CP, mais j'ai envie de dire au CE1, au CE2, au CM1, au CM2. C'est-à-dire que l'atelier de demain avec ceux qui viendront avec nous, c'est ça. C'est peut-être le CP, mais c'est poser des bases pour réfléchir, en fait, sur la langue. Donc, la morphologie, on voit que c'est un effet significatif positif. On a trouvé un palier, quand même, hein. Le palier est autour de 90 minutes, c'est-à-dire que, vous comprenez bien, c'est-à-dire que jusqu'à 90 minutes, ça a l'air d'avoir un effet positif. Au-dessus, ça commence à avoir moins d'effet, c'est un effet cloche. Pourquoi ? Parce que le temps n'est pas extensible. Hein. Si je fais trop de morphologie, je fais moins d'autres choses. Hein. Et quand même, il faut faire du lire-écrire pour apprendre à lire et à écrire. Hein. N'oublions jamais ça. Et le temps consacré à la syntaxe a un effet en écriture. De plus, et ça sera ma conclusion, les enseignants de CP au sein des classes les plus performantes proposent avant tout un rapport à la langue plus réflexif. Il faut faire réfléchir les élèves sur la langue, mais faire réfléchir sur les élèves sur la langue demande à l'enseignant de réfléchir lui-même sur la langue. Voilà, en fait, la piste qui va me permettre d'ouvrir et de donner la parole à mes collègues. C'est ça, notre piste. C'est faire réfléchir les élèves sur la langue. Et ça ne peut se faire que si moi-même, en tant qu'enseignant, je réfléchis sur cette langue. Voilà.